du jour avec le Père Willem.
Agir au sein de la violence. Voir Marc, l'Évangile, chapitre 13, versets 1 à 37. Voilà Jésus qui quitte le temple. Ses disciples sont toujours avec lui et ils doivent être soulagés de sortir de là, loin des tensions, des menaces. Du coup, l'un d'entre eux retrouve l'usage de la parole. « Maître, vois, quelle pierre, quel bâtiment !» En première vue, cette exclamation peut être comprise comme l'expression de son admiration pour la grandeur, la beauté et la solidité du temple, avec même une certaine fierté. Pourtant, les récents événements dans le temple et avec les autorités juives, dont les disciples ont été témoins, peuvent nous amener à percevoir également comme l'expression d'un découragement. Impossible de changer cela. Tu t'attaques à trop gros, trop puissant, trop solide. Les disciples ont vécu tous ces événements à côté de Jésus depuis leur entrée à Jérusalem. Ils ont observé, s'imprégnant de l'agressivité déversée à l'encontre de Jésus, ces violences du dehors, ces abîmes extérieurs, les renvoient à leurs abîmes personnels. Ils réveillent en eux peur, angoisse, impuissance. Peut-être traversent-ils ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression. Ce ne serait pas normal d'ailleurs. Nous ne sommes pas différents de ces apôtres. Comment pouvons-nous imaginer lutter pour rompre la spirale de la violence, pour la transfigurer, si nous n'avons pas d'abord apprivoisé nos propres abîmes personnels? Ils nous mèneront par les chemins de survie qui sont les nôtres. Souvent, la passivité et la contre-violence, très rarement la non-violence. C'est ce qui va arriver aux disciples durant la Passion. Il n'y a pas que les pierres du temple qui semblent immuables, il y a celle de nos constructions intérieures. Chacun d'entre nous a vécu des événements où il a cru, à tort ou à raison, qu'il allait être détruit. Il a expérimenté une angoisse existentielle et pour survivre, il a réagi comme il pouvait en fonction de son caractère et de la situation. Cela a laissé des traces souvent inconscientes. Ainsi avons-nous tous développé des armes plus ou moins violentes pour nous défendre, pour survivre. Oui, nous portons des armes en nous. Dès que nous vivons des émotions qui nous remettent en contact avec des événements passés où nous avons souffert, nous saisissons automatiquement ces armes. Plus nous les avons utilisées, plus nous devenons experts dans leur maniement. Elles ne nous surprennent plus, nous nous y habituons et nous les justifions en quelque sorte. Alors, naturellement, nous tournons notre regard vers les abîmes extérieurs que nous rendons responsables de notre impuissance. Les disciples voient ce temple qui leur semble tellement imposant. C'est impossible à changer. Combien de fois n'éprouvons-nous pas ce sentiment face aux systèmes qui détruisent l'homme? Combien de fois ceux qui ont laissé tomber leurs espoirs d'y changer quelque chose et ceux qui pensent que seule la manière forte pourrait y arriver, ne renvoient-ils cet argument à ceux qui croient à un retournement par l'amour? Jésus se retrouve dans cette situation, dans cette tension, où l'on peut croire qu'il a tout essayé. Comment va-t-il s'en sortir? Que va-t-il se passer? Comment cela pourra-t-il changer? Si même Jésus, lui, le Christ, n'y est pas arrivé, alors quelle est l'attitude de Dieu à ce qui apparaît comme une voie sans issue? Jésus interpelle le disciple sur son regard. Tu regardes ces grands bâtiments, il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. Alors, par quoi notre regard est-il attiré? Ou bien assombri en ces moments-là? La solidité de ces systèmes destructeurs de l'homme ne serait-elle pas qu'apparente? N'est-ce pas notre regard qui nourrit nos peurs et notre impuissance? On parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de revenir à une alimentation saine pour notre corps physique. Mais qu'en est-il finalement de notre corps spirituel? Avec quoi le nourrissons-nous? Si nous n'y prenons garde, nous risquons de le laisser s'empoisonner par la violence et la désespérance qui transparaissent partout autour de nous, dans les médias, les films, les publicités, etc. Alors, apprenons à regarder le monde comme Jésus le regarde, comme Dieu le regarde. Lorsque Martin Luther King a prononcé son discours « I have a dream », combien imaginer que 45 ans plus tard, un noir deviendrait président des États-Unis d'Amérique? Lorsque Mandela a été arrêté et jeté en prison, qui imaginait que 32 ans plus tard, non seulement il en sortirait vivant, mais deviendrait le premier président noir d'Afrique du Sud? En pleine guerre froide, qui osait espérer que 28 ans plus tard, le mur de Berlin serait renversé sans violence par la population? Aujourd'hui encore, comme le disciple il y a 2000 ans, nous sommes omnubilés par la puissance des systèmes qui gouvernent notre temps, incapables de voir au-delà. Et voici ce que pensait Gandhi. Tout au long de l'histoire de l'humanité, dit-il, le chemin de la vérité a toujours fini par triompher. Le monde a connu des tyrans, des assassins, et pendant un certain temps, on les a crus invincibles, mais en fin de compte, ils sont toujours démolis. Et ils se sont toujours écroulés, ne l'oublions jamais. Après avoir annoncé la destruction du temple, Jésus emmène ses disciples au mont des Oliviers, un endroit où ils allaient souvent ensemble et ils se sentaient en relative sécurité. Il était bon d'y vivre. On ne peut pas, au loin, partir pour tout oublier au plus vite. Il va face au temple, ce Jésus, dans un lieu où ils peuvent prendre du recul, face au temple, mais au loin. Et ils ont besoin d'y prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils viennent de vivre. Un nouveau temps de rappel. Alors, le jardin des Oliviers, qui va devenir le lieu de l'angoisse au moment de la Passion, est aujourd'hui donc le lieu où Jésus va prendre soin de l'inquiétude de ses disciples. Il prend un temps avec eux et les prépare à oser aller plus loin, à tenir bon. Et nous retrouvons les quatre premiers disciples, Pierre, Jacques, Jean et André, qui interroge Jésus à part. Et Marc semble vouloir attirer notre attention sur l'importance de ce moment et sur sa dimension intime. On pourrait comparer ce temps à une retraite en tout petit groupe, un accompagnement, un peu dans le style du discernement des esprits jésuites. Là où Jésus veut les accompagner, ce dont il veut leur parler ne peut pas se faire en grand groupe. C'est de l'ordre du secret, non pas qu'ils veuillent le cacher aux autres, mais ce n'est qu'un au plus intime de leur être et dans l'acceptation d'une part du mystère qu'ils peuvent l'accueillir. »